J'aimerais parler sur la victoire de Gédéon. Dans Juges, chapitre 7, verset 1, il est écrit « Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lappèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Sépare les 300 hommes qui ont lappé, que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » On prit les vivres du peuple et les trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de celui de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. Gédéon arriva et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente. Elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous et elle a été renversée. » Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il divisa en 300 corps, les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. » Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à sa place autour du camp et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tout le camp, L'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tse-Re'a, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Les hommes d'Israël rassemblèrent ceux de Nephtali, d'Asser et tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Amen. Connaissons Gédéon qui a été choisi par Dieu. C'était un homme craintif, mais Dieu l'a choisi pour être un libérateur et lui a donné cette mission. Tu délivreras Israël par ta main. Pour l'encourager, Dieu lui a donné trois paroles puissantes. Il lui a rappelé qu'il était un vaillant héros, que l'Éternel était avec lui et qu'il allait délivrer Madian. La nuit même, il a renversé l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. Il a détruit le poteau sacré et il s'est entièrement consacré à Dieu et il a été rempli du Saint-Esprit. Donc cet homme craintif, du jour au lendemain, s'est retrouvé un valeureux guerrier à la tête de 32 000 hommes. Dieu l'a donc qualifié pour un service particulier, alors qu'il n'en avait pas apparemment les compétences. Et ce sont les gens qui sont venus vers Gédéon pour former cette nombreuse armée. Le premier point que je vois dans ce passage au chapitre 7, c'est d'abord le premier tri que Dieu va opérer parmi les 32 000 hommes. Parce que Dieu trouve que les soldats autour de Gédéon sont trop nombreux. 32 000 hommes, c'est beaucoup en effet. Mais finalement, même si c'est un nombre important, et on peut considérer la croissance, parce que Gédéon était tout seul, ça fait 1, il est donc passé de 1 à 32 000, c'est déjà une belle croissance, c'est déjà un premier exploit de rassembler autant d'hommes. Mais même aux yeux de Gédéon, si je me mets à sa place, je me dirais que 32 000 hommes, ce n'est pas si nombreux que ça face à l'armée adverse. Parce que quand on regarde dans Juges 8, on se rend compte qu'en face, ils étaient 135 000. 135 000 contre 32 000. Ça fait quand même 4 fois moins. Donc, à la place de Gédéon, en raisonnant, je me serais dit, mais peut-être il faudrait qu'on soit un peu plus. Mais pour Dieu, il dit, 32 000, c'est trop. Imaginez un match des All Blacks qui sont 15 contre le Stade Toulousain et ils sont que 4. Ça va être difficile pour les... Ça va être difficile pour le Stade Toulousain. Ben, c'était un peu proportionnellement la différence entre les deux. Ils étaient 4 fois moins nombreux. Donc Gédéon, très certainement, quand Dieu dit « le peuple est trop nombreux », il réfléchit, il se dit « mais comment le peuple est trop nombreux ?» On est beaucoup moins nombreux que les adversaires et Dieu nous dit que le peuple est trop nombreux. À la place de Dieu, il aurait certainement augmenté le nombre du peuple, mais Dieu dit non, il faut réduire. Et c'est ça qui nous perturbe, c'est que les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Et nous ne comprenons pas toujours Dieu, mais nous devons partir du principe que si Dieu dit que le peuple est trop nombreux, c'est que Dieu a raison. Et le peuple est trop nombreux. Même si nos yeux nous disent on n'est pas assez nombreux, Dieu dit « le peuple est trop nombreux ». Ça veut dire que Gédéon doit accepter la logique de Dieu, qui n'est pas sa logique. Et même si c'est discutable sur le plan logique et de dire à Dieu « mais écoute Seigneur, tu vois bien qu'on est beaucoup moins nombreux, on ne peut pas dire qu'on est trop nombreux, on n'est pas assez face à l'adversaire ». Même si on peut négocier, discuter, en réalité sur le plan spirituel, Dieu, ce qu'il dit, est juste. Parce que Dieu est toujours la vérité. Donc, on doit se soumettre à la volonté de Dieu. Même si on pense le contraire, même si les statistiques nous disent le contraire, parce que dans les statistiques, entre l'armée madianite, 135 000, et Gédéon et ses 32 000, la force, c'est quand même, l'avantage est quand même de l'autre côté. Dans les statistiques, ils ont moins de chances avec leurs 32 000 que les autres. Donc Gédéon doit faire un effort pour s'aligner sur la pensée de Dieu et dire « d'accord, d'accord, le peuple est trop nombreux », même si dans ses yeux, il voit que ce n'est pas assez. Et voilà comment Dieu nous fait passer par le test de l'obéissance et il aime que nous lui obéissions même si nous ne comprenons pas tous les éléments. Il nous demandera simplement de faire ce qu'il dit même si ça heurte notre logique. On a plein d'exemples dans la parole en fait. Lorsque le jeune David qui était berger arrive sur le camp de bataille et qu'il est saisi pour combattre le géant Goliath qui est quand même plus puissant que lui et qui est quand même un homme avec une armure et une lance, un javelot, et qui a une armure très, très forte, très lourde, eh bien, à ce moment-là, Dieu lui dit de refuser l'armure de Saül. Il lui dit de refuser l'armure de Saül. Et il va partir seul avec sa fronde. Donc, ce n'était pas très logique sur le plan humain, mais il a eu raison sur le plan spirituel, parce qu'il vaut mieux se soumettre à Dieu plutôt qu'à nos pensées. Humainement, il aurait pu dire « je serais mieux protégé avec la cuirasse de Saül ». Non, il fallait partir avec la fronde. Et c'est pareil, quand Jésus envoie les disciples pour prêcher la parole de Dieu, il les envoie sans bâton. Prenez ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et ne prenez pas de vêtements. Ce n'est pas très logique. Comment on va faire pour s'en sortir? Comment on va faire pour se déplacer? Comment on va faire pour acheter des choses? Eh bien, il fallait qu'ils fassent confiance au Seigneur qui allait pourvoir au fur et à mesure. Donc, on est sur le terrain de la foi. Et ça quitte le terrain de la logique et humain où on est très à l'aise. Et il va falloir faire confiance à Dieu pour le reste. Donc, Gédéon en est là. Et Dieu, en plus, révèle à Gédéon, il faut faire un tri. Le peuple, il est à 32 000, ils sont trop nombreux, ils pourraient en tirer gloire et tomber dans l'orgueil. Donc, il faut en écarter une partie. Ce texte veut dire que Dieu voulait faire éclater sa gloire lui-même, sans les efforts humains. Donc, il y a des raisonnements dans notre esprit, il y a des forteresses de pensée qui doivent être renversées pour laisser la volonté de Dieu se faire. Et le défi pour nous aujourd'hui, c'est de faire plier nos raisonnements à la volonté de Dieu, un petit peu comme Gédéon qui regarde le peuple et qui entend la pensée de Dieu, mais le peuple est trop nombreux, il faut en séparer une partie. Bon, eh bien, il doit se soumettre à la pensée de Dieu, même si il est craintif, lui, et qu'il aimerait mieux être plus. Donc, il donne cette annonce au peuple. Tous ceux qui ont peur, vous pouvez rentrer chez vous. C'était d'ailleurs une loi dans Deutéronome 20, verset 8, une loi qui était prévue par Dieu dans l'Ancien Testament. Les officiers continueront à parler au peuple et diront « Qui est-ce qui a peur et qui manque de courage ?» Donc, il s'adresse à l'armée. « Qu'il s'en aille chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. » Et quand Gédéon annonce au peuple « Qui a peur, vous pouvez partir ?» Il y en a 22 000 qui partent quand même. 22 000. Les deux tiers, c'est énorme. Déjà que 32 000, c'était beaucoup plus petit que les 135 000, mais maintenant, ils passent à 10 000. Les deux tiers s'en vont. Je pense qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils s'est peut-être dit, peut-être qu'il y en aura 1 000 qui vont partir. Mais quand ils voient cette masse partir, ben même pour ceux qui restent, quand même, ça met un petit coup au moral. Parce qu'on se dit, on était quand même 32 000 et on se retrouve à 10 000. L'armée, en fait, s'est réduite. Parce que déjà, ils étaient en difficulté avec 32 000, mais c'est comme si Dieu les mettait en plus grande difficulté encore avec 10 000. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Il y a un deuxième point, c'est le second triage. Parce que pour Dieu, 10 000, c'est encore trop. Et Gédéon ne s'attendait pas à cette diminution déjà tellement nombreuse. Il aurait pu plaider avec Dieu. Et quand Dieu lui dit, voyez au verset 4, donc ils sont passés de 32 000 à 10 000, et qu'est-ce que dit Dieu ? Il voit les 10 000, il dit, mais le peuple est encore trop nombreux. C'est encore trop nombreux. Mais on pourrait rappeler à Dieu, mais en face, ils sont 132 000. Nous, on est 10 000. C'est pas assez. On ne va jamais pouvoir gagner. Dieu ne raisonne pas comme nous. Voyez Ésaïe 55, 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors, on doit accepter la pensée de Dieu qui est au-dessus de nos pensées, au-dessus de nos voix. Alors, on a peut-être de bonnes raisons de faire autrement, de dire à Dieu, c'est pas possible, on devrait pas faire comme ça, il y a notre logique humaine qui est là, mais qui est limitée. Eh bien, Dieu nous demande de quitter la logique humaine limitée pour entrer dans la logique de la foi. C'est une autre logique, c'est la logique de Dieu. Et Dieu dit, c'est encore trop nombreux. Mais pour nous, c'est pas facile de quitter la logique purement terrestre et humaine, parce qu'on est habitué, depuis qu'on est enfant, à raisonner avec nos cinq sens. Donc on a la vue, on a l'ouïe, on a l'odorat, le toucher, on a le goût. Tout ça, on fonctionne très bien avec ça. Mais quand nous devenons chrétiens, nous devons développer un sixième sens, qui est celui de la foi. Et ce n'est plus sur les cinq sens que nous nous basons, c'est sur un sens spirituel qui nous dit « voilà la volonté de Dieu ». Est-ce qu'on va obéir ou pas à sa volonté? C'est le sixième sens. Dieu demande à Gédéon de faire un tri parmi ceux qui boivent. Bon, il y en a 10 000 devant lui. Et il y en a qui vont plonger la tête dans l'eau, et il y en a qui vont amener l'eau à leur bouche et laper comme des chiens. Et quand Gédéon les voit faire, il y a quand même 9 700 qui plongent la tête dans l'eau, et il y en a seulement 300 qui portent l'eau à la bouche. Et Gédéon voit ça, et il se dirait, ben moi je préférais avoir quand même les 9 700 de mon côté, et laisser partir les 300. Mais Dieu voit l'inverse. Il dit, moi c'est par les 300 là, que je vais délivrer Israël de la main de Madian. Là encore, en regardant humainement, on aurait choisi le plus grand groupe, mais Dieu choisit le plus petit. C'est un petit peu ce qui est arrivé à Samuel quand il était désigné pour aller chez Isaïe pour choisir le futur roi d'Israël. Et lorsqu'il a vu Éliab, l'aîné de la famille, il a dit dans son cœur, certainement loin de l'Éternel, le futur roi c'est lui. Ça c'est la première pensée, c'est la pensée de la chair. Mais Dieu, dans son cœur, lui dit « Non, non, ce n'est pas lui que j'ai choisi. » Samuel, même prophète, aurait fait un mauvais choix s'il s'était laissé conduire par ses propres sentiments, c'est-à-dire les cinq sens. Les cinq sens peuvent nous conduire au mauvais endroit. Et puis, pareil, le deuxième arrive, il l'aurait bien choisi, mais ce n'était pas lui, etc. Jusqu'à ce que Dieu lui révèle, c'est David. Et là, c'est le sens de la foi, c'est le sens spirituel. C'est le sens qu'il doit suivre. C'est donc pas basé sur sa vue, pas basé sur ses impressions, mais basé sur la volonté de Dieu et la foi qui est là dans son cœur. Si vos choix sont inspirés par vos raisonnements, et si vous choisissez le plus grand groupe, alors que Dieu a décidé que c'est le plus petit, eh bien vous faites le mauvais choix. Peut-être sur le plan humain, vous allez dire « j'ai fait un bon choix, c'était la volonté de Dieu, certainement c'est le plus grand groupe que Dieu veut. » Mais si vous priez et que Dieu vous révèle « c'est l'autre », eh bien, il faut obéir à Dieu et choisir l'autre. Le problème, c'est qu'on a souvent une résistance à faire la volonté de Dieu et nous voulons garder le contrôle. Être conduit par Dieu, ça veut dire accepter que Dieu contrôle notre vie. Si vous êtes chauffeur, vous avez une voiture et que vous donnez le volant à quelqu'un et vous êtes du côté passager, c'est plus vous qui avez le contrôle sur la voiture. Même à un moment donné, si le chauffeur accélère et vous sentez qu'il faut mieux freiner, vous pouvez appuyer avec vos pieds, il ne va rien se passer. Vous n'avez pas les pédales. Ce n'est pas vous qui contrôlez, c'est le chauffeur qui contrôle. Quand vous donnez votre vie au Seigneur, celui qui conduit, c'est Dieu. Et c'est lui qui doit avoir le contrôle. J'ai eu l'occasion d'être conduit par un ancien chauffeur de taxi qui est devenu pasteur, mais il était à la base chauffeur de taxi à Marseille. Et il m'a transporté dans la ville de Marseille. Mais alors, j'avais l'impression, alors moi j'étais du côté passager, j'avais l'impression qu'on allait toucher les voitures, tellement il passait près des voitures. C'était lui qui avait le contrôle. Mais on ne touchait pas les voitures, mais c'était peut-être à 1 cm. Il avait une telle maîtrise de son véhicule. Mais on va toucher la voiture, on va toucher la voiture. Non. Il avait le contrôle. Il maîtrisait bien son véhicule. Et on n'a pas touché de voiture, et pourtant il passait très près des voitures, très vite, il avait le contrôle. Quand on fait confiance à Dieu, on a peut-être l'impression que ça va mal tourner, mais si on a confié le contrôle au Seigneur, c'est lui qui va conduire, il va nous emmener dans la bonne direction, et il n'y aura pas d'accident. Le troisième point, après ces deux tris successifs, qui quand même sont un petit peu lourds, il y a une promesse de Dieu qui vient réconforter Gédéon, et il avait besoin de cette promesse. Cette promesse, parce qu'il était quand même passé d'une grande armée de 132 000 du jour au lendemain à 300, ce qui fait quand même une réduction de 99% des effectifs. C'est énorme. Même si vous êtes chrétien, même si vous avez bon moral, quand vous voyez une telle diminution, vous vous dites, c'est pas facile à encaisser. C'est plus facile d'être vaillant quand vous êtes 32 000 que quand vous êtes 300. Donc, le départ du peuple a dû mettre un coup. Alors c'est au verset 9, l'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Ils ne sont plus que 300, mais la parole de Dieu vient ici pour l'encourager. Sachant que le départ d'une telle masse a dû mettre quand même un coup au moral des 300 qui restent, ils ne sont plus beaucoup. La situation était déjà difficile, maintenant c'est encore plus compliqué, comment on va faire avec 300 contre 135 000 en face. De notre point de vue, on pourrait dire que ça va être plus difficile quand même. Si on raisonne, on réfléchit, on se dit 300 quand même, ça va quand même être plus difficile qu'avec 32 000. Humainement parlant, c'est sûr. Mais si on se met du point de vue de Dieu, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème avec 300, il dit Dieu, c'est avec 300 que je vais délivrer Israël de la main de Madian. Donc, ce qui est pour nous un problème n'est pas un problème pour Dieu. Et nous devons lui faire confiance pour cela. La parole de Dieu est ferme, voyez au verset 9. Remarquez que Dieu il parle au passé d'une chose qui n'est pas encore accomplie, parce que c'est déjà fait spirituellement. « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré. » Donc, c'est déjà fait, c'est au passé. « Je l'ai livré entre tes mains. » Tu n'as plus qu'à récolter. Pour Dieu, c'est donc déjà fait. Et Dieu n'a pas peur de parler au passé de choses qui ne sont pas encore réalisées, parce que ça va s'accomplir. Et maintenant, c'est à nous d'entrer dans la foi pour croire que la chose va s'accomplir. C'est ce qui est arrivé à Abraham dans Romains 4, verset 16. Vous allez voir le même principe. C'est souvent une parole de Dieu que Dieu va déclarer au passé quelque chose qui n'est pas encore. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Lorsque Dieu fait cette déclaration ici à Abraham, il n'est pas encore père d'Isaac. Il n'est pas encore père d'Isaac. Mais déjà, Dieu lui dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, qui appelle, et écoutez bien la fin, parce que c'est ça la clé finalement, il appelle Dieu les choses qui ne sont point, elles ne sont pas encore là, comme si elles étaient au passé. Elles ne sont pas encore et c'est comme si elles étaient. Voilà le temps de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit à Gédéon, c'est fait, j'ai livré Madian entre tes mains. Pourtant, Madian, il est toujours là, c'est une armée nombreuse, et eux, ils ne sont pas encore commencé le combat. Mais c'est déjà fait spirituellement. Le quatrième point, c'est maintenant les craintes de Gédéon, parce que Dieu savait que Gédéon avait toujours des craintes, il en tient compte. On a vu depuis le début, dès que l'ange de l'Éternel se révèle à lui, il manifeste des craintes. Il veut bien faire la volonté de Dieu, mais il a toujours des craintes, il demande des signes, il demande des confirmations, tout ça. Bon, ce qui est bien chez Gédéon, si vous voulez, c'est que malgré ses craintes, ses appréhensions, ça ne l'empêche pas de faire le plan de Dieu pour sa vie. Il y va quand même. Et ça, c'est bien. Et encore aujourd'hui, même si on a des craintes et on ne sait pas comment Dieu va faire et qu'est-ce qui va se passer demain, eh bien, on peut faire le pas d'obéir à Dieu et de faire sa volonté. La promesse de Dieu devrait nous suffire, mais comme Gédéon, nous avons souvent des craintes et on a du mal à croire. Et puis surtout, on craint que la chose tourne mal, qu'il y ait des problèmes imprévus, et puis si l'ennemi était plus fort, et puis si ça se passe comme ça, et si Dieu n'intervient pas. Alors Dieu va rassurer Gédéon, mais d'une manière tout à fait étrange, et encore à la manière de Dieu, qui nous échappe, c'est que Dieu dit à Gédéon, pour te rassurer, tu vas aller dans le camp ennemi. Mais déjà, pour vous rassurer, aller dans le camp ennemi, déjà, il faut être assez vaillant pour aller dans le camp ennemi. Tu vas aller dans le camp ennemi avec ton serviteur, donc tu ne seras pas tout seul. Et là, lorsqu'il va de nuit dans le camp ennemi, il entend un soldat parler avec un autre. Il a fait un songe. Et dans ce songe, il voit la défaite de Madian. Et il le dit. Et Gédéon, lui, il était dans la crainte de ses ennemis, mais il ne savait pas que les ennemis eux-mêmes étaient dans la crainte de Gédéon. Et tout d'un coup, il découvre que ses ennemis eux-mêmes, ils ont peur de lui. Lui, il se voyait petit, faible, incapable, mais il ne se voyait pas comme Dieu le voyait, c'est-à-dire Dieu lui a dit « tu es un vaillant héros ». Et lui se voyait faible, petit, incapable. Et là, de la bouche même de ses ennemis, il entend « mais Gédéon, c'est par lui que l'Éternel va remporter la victoire, il est vaillant ». Et c'est pour ça qu'on doit croire ce que Dieu dit, même si nos yeux nous disent le contraire, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et Gédéon maintenant est convaincu en entendant ce que ses ennemis disent de lui. La parole de Dieu devrait nous suffire. Mais il avait besoin d'une confirmation. Alors, lorsque le diable vous dévalorise et qu'il vous dit « Vous êtes incapable, vous êtes trop petit, vous ne pourrez jamais y arriver, vous n'avez pas de valeur », eh bien, rappelez-lui votre valeur que vous avez en tant qu'enfant de Dieu et fils et fille du roi des rois. Si vous trouvez un lingot d'or, par exemple, dans une décharge, imaginez, vous trouvez un lingot d'or dans une décharge. Il est très sale, il est couvert de boue, il y a des déchets dessus et tout. Mais ce lingot d'or, quelle est sa valeur ? Et il a la même valeur qu'un lingot neuf. Un lingot, ça vaut environ 60 000 euros, un lingot d'or. 60 000 euros. Eh bien, ce lingot, il a toujours la valeur de 60 000 euros. Il n'a pas diminué de valeur parce qu'il est couvert de boue. On va le nettoyer, on va bien le frotter et on va le présenter à la banque et il aura la valeur d'un lingot d'or. Donc la valeur, elle ne change pas. Sa valeur n'a pas changé par sa condition. Et peut-être on a été malmené, on a été bousculé, on est couvert de boue, dans les déchets, dans les péchés, mais notre valeur, elle ne change pas. Dieu nous aime toujours de la même valeur. Nous avons toujours une importance à ses yeux. Et nous sommes toujours importants aux yeux de Dieu. Donc c'est ça qui compte. C'est notre valeur intérieure. Cinquième point, c'est la foi de Gédéon maintenant, puisqu'il va franchir un palier. Et enfin, au verset 9, il va aligner son discours avec le discours de Dieu. Donc au verset 9, on a vu que Dieu avait dit « J'ai livré Madian entre tes mains ». Verset 14, maintenant Gédéon dit « L'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains ». Et il parle au passé d'une chose qui n'est pas encore. C'est-à-dire qu'il a compris la manière de Dieu de parler. Il a compris que Dieu parle au passé de quelque chose qui n'est pas encore. Et il se met à parler au passé de choses qui ne sont pas encore arrivées. Et plus vous allez vous rapprocher de Dieu, plus vous allez parler comme Dieu et développer le langage divin. Et la foi s'exprime dans notre discours. Quand notre discours s'aligne avec le discours de Dieu, là on est dans la foi. Et Gédéon se prosterne devant Dieu, il adore. Gédéon croit maintenant qu'il a déjà la victoire. Mais je vous donne un exemple dans le Nouveau Testament, c'est Jésus lui-même. Dans Marc 11, 24. Vous voyez très bien les trois temps de Dieu ici. C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle, tout ce que vous demanderez en priant, en réalité ici, c'est au présent, la plupart des versions modernes, c'est tout ce que vous demandez au présent. Le verbe est au présent. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, ça c'est au passé, vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir, ça c'est au futur. La prière comprend les trois temps de Dieu. La foi va rendre présent ce qui est encore à venir. Et vous dites peut-être, mais c'est impossible. Puisque ce n'est pas encore là, on ne peut pas en parler au passé. Ça, c'est sur le plan humain. Mais sur le plan spirituel, vous pouvez dire, tout est possible à celui qui croit. Là, on est dans le domaine de la foi. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, c'est au passé, et vous le verrez, c'est au futur. Mais comment, Seigneur, je l'ai déjà reçu, mais je ne le vois pas encore s'accomplir. Oui, c'est le temps de Dieu. Dieu en parle au passé, et ça n'est pas encore là, mais ça va arriver. 1 Jean, chapitre 5, verset 14, vous allez voir qu'une fois que vous avez la foi, vous alignez votre discours sur le discours de Dieu, vous avez de l'assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Nous la possédons déjà. Et là, on est dans le terrain de la foi. On l'a demandé, on la reçoit par la foi, et ça va se manifester dans un deuxième temps dans la vie pratique. Donc la foi nous permet de posséder déjà des choses que vous n'avez pas encore. La foi, c'est un mystère pour la logique, parce que si vous réfléchissez, ça n'a pas de sens, mais il nous faut nous dégager de cela pour croire. Et le dernier point, c'est... La fin du récit, c'est la victoire surnaturelle de Gédéon contre les Madianites, puisque la stratégie de Gédéon est assez étrange, finalement. Il y a 135 000 soldats ennemis. Lui, il est avec 300 personnes. Et il vient avec des cruches, avec des flambeaux et avec des trompettes. Bon, si on analyse la situation, qu'est-ce que vous voulez faire ? avec des cruches, des flambeaux, des trompettes, vous avez 135 000 soldats en face de vous. Comment les choses vont tourner ? Donc les chrétiens, ils ne s'appuient pas tellement sur les choses de la terre, ils s'appuient sur les promesses de la parole de Dieu. Dieu avait dit à Gédéon, « Je t'ai livré le camp, tu suis les indications. » Donc Gédéon s'appuie davantage sur les promesses de Dieu et sa pensée que sur des stratégies humaines. Il ne s'appuie pas sur ses forces. Gédéon demande à ses soldats de l'imiter. Ça, c'est important parce qu'un leader doit être celui qu'on peut imiter. Paul le demande à Timothée, par exemple, 1 Timothée 4:12. Donc Gédéon a été choisi par Dieu pour être le conducteur du peuple, il fallait l'imiter. Et Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Remarquez que le premier modèle à imiter, c'est les paroles que vous prononcez, hein, même en tant que leader. Les paroles reflètent l'état du cœur. Et si un leader ne maîtrise pas sa langue et parle à tort et à travers, ou parle d'une manière négative, eh bien, il ne va pas être propre à servir dans l'œuvre de Dieu. Il ne pourra pas, il ne sera pas un modèle en parole et en conduite, et il devra réformer son langage. Ça, c'était nécessaire déjà donc pour Timothée. Paul dit dans 1 Corinthiens 1:11, il demandait aux chrétiens de l'imiter lui-même. Il disait aux Corinthiens, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Comment imiter Paul ? Regardons sa vie. Il avait crucifié la chair et ses désirs. Il avait laissé à Jésus la première place dans sa vie. Ce n'était pas autre chose. C'était une consécration. Prendre modèle sur Paul, c'est voir son amour pour Dieu, voir son zèle pour l'Église, voir sa consécration, voir son service. Tout ce qu'il a fait, c'était pour le Seigneur. Les 300 hommes, en fait, dans la stratégie divine, ils n'ont même pas eu à combattre l'ennemi. Le texte dit qu'ils ont juste brisé les cruches et sorti les flambeaux, sonné des trompettes. Mais au verset 22, l'Éternel leur fit, donc aux ennemis, aux Madianites, il leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. C'est-à-dire que finalement, le nombre de 300 importait peu, en réalité, puisque Dieu avait prévu un plan où ce sont les soldats madianites qui allaient se ruiner eux-mêmes. La leçon ici, c'est que ce qui est important pour nous a souvent peu de valeur pour Dieu, le nombre, la quantité, les armes, et ce qui est important pour Dieu est souvent secondaire pour nous. Et nous, on privilégie plutôt les choses inverses à ce que Dieu privilégie. Donc, ne nous trompons pas de valeur. Les valeurs, elles sont d'abord l'obéissance, la foi, se soumettre à la volonté de Dieu, et ensuite, Dieu accomplit son œuvre d'une manière qui nous échappe. Ça, c'est la leçon qu'on peut tirer du récit de Gédéon. En conclusion, Gédéon et ses 300 hommes ont vaincu une armée ennemie beaucoup plus nombreuse et plus puissante qu'eux, mais ils ont suivi la méthode de Dieu. Et ça, ce n'était pas facile. Et peut-être c'est là qu'est la victoire de Gédéon, finalement. La victoire de Gédéon, c'est d'accepter de passer de 32 000 à 10 000, puis de 10 000 à 300, puis d'aller avec ces 300, avec des flambeaux, des cruches et des trompettes, attaquer 135 000. La victoire, elle est là parce que c'est la victoire de l'obéissance, de la foi. C'est la victoire de la soumission, c'est la victoire sur nos raisonnements, sur nos pensées. Et il a eu raison. Il a davantage fait confiance aux paroles de Dieu qu'à ses propres calculs et à ses raisonnements. Encore aujourd'hui, nous devrons faire confiance à Dieu, quelles que soient les situations. Peut-être vous n'avez pas de solution aujourd'hui. Peut-être il n'y a aucune issue dans votre affaire. Peut-être tout vous semble perdu. Même tous vous ont abandonné. Eh bien, restons fidèles aux promesses de Dieu et à sa parole et attendons-nous à son action bénie. C'est lui qui a remporté la victoire contre le camp ennemi. Nous sommes dans la foi et nous nous attendons à sa grâce. On va prier quelques instants. Merci encore pour ta parole, pour l'exemple de Gédéon qui a vaincu ses peurs, qui a aussi eu l'audace de la foi et de l'obéissance, alors que c'était insensé sur le plan militaire et humain. Mais Seigneur, tu l'as conduit dans cette telle réduction pour lui montrer que la victoire appartient à l'Éternel, que ce n'est pas par nos forces ni par nos efforts, mais c'est par ta puissance par ta grandeur, par ta gloire que les victoires sont remportées. Et nous voulons rester humbles, Seigneur, et être à l'écoute de ce que ton esprit veut nous dire, afin que nous soyons une armée à ton service, mais prêts à faire les sacrifices et faire ce que tu demandes en priorité. Oui, Seigneur, nous voulons développer la foi comme Gédéon, croire, Seigneur, que tu es toujours ce Dieu du miracle, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui combat pour nous, et que tu es capable de transformer encore, de changer des situations bloquées, parce que ta main est là, parce que ton esprit est là, parce que c'est une force spirituelle qui vient sur nous, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.